Eh bien Arnaud, nous revoici ensemble pour le module 4 de ce cours dédié au service IaaS de Microsoft Azure. Nous allons donc parler dans ce module et nous consacrer exclusivement à quelque chose qui, je sais, est un peu ton dada, c'est-à-dire tous les services de réseau virtualisés sur la plateforme d'infrastructure Azure.
Alors, on va avoir un cours qui durera un petit peu de temps, parce qu'on va découvrir les basiques du réseau et puis qu'est-ce qu'on peut utiliser comme service de mise en réseau pour Azure. Donc, au niveau de l'agenda, en fait, je t'ai fait plusieurs sections. Une partie sur les réseaux virtuels, une partie sur le load balancing, une partie sur le routage et le filtrage dans les réseaux virtuels. Évidemment, sujet majeur de l'interconnexion, sujet majeur de l'hybridation des clouds, ben, c'est l'interconnexion des réseaux. On aura quelques mots sur Traffic Manager, les appliances réseau virtuel et puis finir en beauté avec Azure DNS.
Bref, un programme plutôt alléchant, plutôt chargé. Le plus simple, c'est de refaire déjà un petit topo très rapide de tout ce qu'on a dans Azure, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de choses, des services d'infrastructure, des services, donc on est plutôt sur de l'infrastructure de service. Au-dessus, on a des services de plateforme as a service, également très, très riches. C'était d'ailleurs l'origine de la plateforme Azure. Finalement, dans ce module, on va pas mal traiter de cette partie-là qui est le networking, donc qui est plutôt situé dans les couches basses c'est-à-dire l'infrastructure, hein, du cloud. Donc, comme tu l'as dit, on va regarder comment fonctionnent les réseaux virtuels et comment on les subdivise. On va parler de load balancer virtualisé géré par la fabrique. On va parler effectivement de la résolution de nom avec tout ce qui est DNS. Express Route également, ça c'est un sujet d'interconnexion qui est particulièrement d'actualité vu aujourd'hui qu'on utilise plutôt des infrastructures de type hybride. On parlera de Traffic Manager, toujours dans l'interconnexion des passerelles VPN, hein, qui sont une alternative un peu moins chère à Express Route. Et puis on terminera par les passerelles applicatives. Et là, on ira voir notamment un de nos partenaires qui fait une passerelle applicative assez intéressante.
Voilà le programme. On commence par les réseaux virtuels dans Azure.
Oui. Alors, dans Azure, les réseaux virtuels qu'on appelle les VNet, effectivement, c'est exactement ce qu'on peut créer sur un environnement sur site où on va créer des réseaux virtualisés. Et puis, c'est comme un réseau IP standard, on va le subdiviser potentiellement avec des subnets, des sous-réseaux. On va venir dans Azure avec du plan d'adressage IPv4 provenant de la RSC 1918, qui, si tu peux nous le rappeler, intègre donc les plages d'adresse IP suivantes.
192, 168, 172, 16 et 10, donc les places d'adresse IP classiques pour l'adressage privé.
Néanmoins, si on est dans un mode où on a envie d'amener une partie du plan d'adressage de son informatique dans Azure, on peut également être en mode Bring on IP. Et dans ce cas-là, venir effectivement mettre une partie de son adressage d'entreprise dans Azure. À noter, entre Azure et vos sites, vos data centers, ce n'est pas de la transfert d'adresse, c'est du routage. Donc il faut éviter bien entendu l'overlap d'adressage IP et l'overlap de subnet, sans doute.
Donc, on va positionner nos machines virtuelles dans ces différents subnets. Ces différents subnets seront routés automatiquement entre eux. C'est le job de la fabrique. Et puis, une des questions qui va assez rapidement se poser, c'est comment est-ce que je résous des noms à l'intérieur de ces réseaux virtuels?
Donc c'est une fabrique de cloud. On va fonctionner sur un mode de DHCP. Hein. On peut lui donner un autre nom, un peu le Dynamic Dynamics, c'est du DHCP derrière géré par notre fabrique qui va être assuré. Donc ça veut dire que toutes les machines virtuelles qui vont dans Azure ne seront pas avec des adresses qui vont être fixées en dur dans les paramètres réseau au sein du système d'exploitation de la machine invitée. C'est assez important parce que si on commence à essayer à la main de mettre soi-même son paramétrage IP, la fabrique finira par détecter que ce n'est pas elle qui pilote une adresse IP donnée, et donc elle déconnectera automatiquement le port. Néanmoins, pour ceux qui ont un peu peur, parce qu'effectivement leur application est sur une adresse IP donnée et elle ne peut pas en changer, on peut faire une réservation, ce qu'on appelle une adresse IP statique, qui correspond en fait à une réservation du DHCP de la fabrique d'Azure.
Bien. Merci pour ces infos sur adressage, Stanislas. Je me permets de revenir sur la résolution de nom. Effectivement, dans la résolution de nom, on va pouvoir utiliser le serveur DNS entre guillemets d'Azure, donc qui permet aux machines qui sont à l'intérieur des subnets de résoudre les noms simplement de manière flat entre elles, entre les machines sur le subnet, mais aussi à destination de l'extérieur, donc pour aller résoudre les noms de l'Internet tout simplement. Ou alors, on a aussi la possibilité d'utiliser des DNS de l'AD ou des DNS tiers selon ce que vous venez mettre dans votre machine virtuelle. Ben, vous pouvez tout à fait utiliser un service DNS hébergé sur une VM à l'intérieur du service. Ça peut être du Active Directory, ça peut être du Bind ou toute autre adaptation. On vous recommandera évidemment d'utiliser ensuite soit des forwarders pour aller directement faire des requêtes vers votre fournisseur de DNS préféré, soit d'utiliser des routines, qui est le cas par défaut du fonctionnement de la plupart des DNS. Donc, à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire début 2016, les éléments de base sont qu'on utilise des réseaux en IPv4. Évidemment, IPv6 est dans la roadmap et arrivera peut-être au moment où vous êtes en train de regarder ce cours. On a la possibilité d'avoir plusieurs interfaces réseau par machine virtuelle. Le support du broadcast et du multicast est limité. On a une attribution d'adresse IP qui se fait de manière entre guillemets statique, mais toujours administrée par la fabrique. C'est-à-dire on va dans le portail et dire voilà, cette carte réseau-là a telle adresse IP. Mais on ne va surtout pas gérer les informations dans par exemple dans le Network Control Panel de Windows et la mettre à la main, l'adresse IP. Le routage entre différents subnets à l'intérieur d'un VNet est fait automatiquement. Et puis, à noter qu'il y a 4 adresses qui sont réservées par réseau virtuel pour les besoins de routage de la fabrique et les besoins d'opération réseau.
Donc, les adresses commencent à être attribuées à partir de la numéro 4, si je ne dis pas de bêtises.
Absolument. La résolution, non, je vous l'ai dit. En général, ce qu'on va faire quand on a besoin de choses un petit peu avancées, on va aller regarder la résolution de non avec des serveurs bien particuliers, soit du bind, soit de l'AD, parce que bah, globalement, on n'a pas forcément la possibilité avec la résolution basique de Azure d'utiliser des enregistrements de type SRV, de type CNM, etc. La résolution non Azure, c'est basique. Hein. C'est un nom, une machine, c'est tout. Pas d'alias, rien du tout.
Donc, c'est donc très basique.
C'est donc très, 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 très basique. Donc, assez vraisemblablement, ce qu'on va voir, c'est qu'on va... assez vraisemblablement utiliser des serveurs DNS qui sont des serveurs DNS, peut-être de l'Active Directory, ne serait-ce que pour une raison assez simple qui est d'avoir une cohérence avec l'espace de nom qui existe déjà on-premise. Si on est dans un environnement hybride, on va vouloir surtout pas avoir du split brain DNS et puis avoir quelque chose qui va être vrai dans Azure et quelque chose qui va être vrai de l'autre côté. Donc on aura sans doute des petites interconnexions comme ça. Donc voilà pour la résolution de nom, les quelques notions qu'il faut garder en tête. Les cartes réseau par machine virtuelle à l'intérieur d'Azure, on peut avoir selon la taille de la machine virtuelle, eh bien, un certain nombre de cartes réseau qui sont attachées à la VM. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est que bah, assez vraisemblablement, on va créer une VNIC, une carte réseau virtuelle par besoin de communication. Donc on a toujours la possibilité de créer un back-end subnet, un subnet pour le management, un subnet pour le front-end, et puis on gérera ensuite comme ça les ACL entre les différents sous-réseaux pour se dire, bah, voilà, telle machine a le droit de discuter avec telle autre sur tel port, par exemple. C'est ce qu'on appelle les Network Security Group, les ACL, dont on reviendra dans quelques minutes. Donc voilà cette notion de carte réseau par machine virtuelle dans Azure. Plutôt que d'en discuter, je propose qu'on regarde à comment ça se passe, cette création d'adresse IP et cette création de réseau virtuel au sein de Microsoft Azure. Alors, on est ici dans ma console Azure, la console de production. On va pouvoir faire ici nouveau. Dans cette partie, on va pouvoir créer une partie networking. Et dans la partie networking, il y a un ensemble de services qui sont à ma disposition. Et ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est effectivement cette notion de réseau virtuel. Donc, dans cette notion de réseau virtuel, ici, j'ai la possibilité de créer un réseau. Et puis, ben, assez simplement, ce réseau, je vais devoir lui donner un nom, un espace d'adressage, donc VNet Arnaud. Je choisis l'espace d'adressage ici 10.3.0.0/16, donc il va m'utiliser les deux premiers caractères de mon espace d'adressage, et ensuite je pourrais faire plein de subdivisions en /24 selon mes besoins. Je crée un nom pour le premier subnet par défaut, donc là je vais dire par exemple
subnet 1.
Voilà, subnet 1 ou front-end. Et je vais choisir que ce sera le subnet 0 à l'intérieur de ce /16 qui sera utilisé pour ce subnet de front-end. Et ensuite, je vais le placer dans un ressource group. Ressource group qui est une manière de regrouper les ressources dans Azure. Donc là, on va faire démo network.
Donc un exemple d'usage de la ressource group dans Azure pour cet exemple-là, ce serait de dire j'ai plusieurs machines virtuelles qui elles-mêmes ont besoin de comptes de stockage et différentes ressources, plus entre autres comme ressources les VNet. Je vais tout regrouper dans un même répertoire ou dans un même groupe, en fait, ce qui simplifie l'administration. On fait souvent ça, d'ailleurs, pour séparer les applications métiers les unes des autres.
Exactement. Donc, je peux aller voir ici, dans l'ensemble de mes ressources, les réseaux virtuels qui existent déjà dans mon environnement, dans mon abonnement. Donc là, j'en ai un certain nombre qui sont déjà effectifs. Je vais en prendre un au hasard. Et puis, si je veux voir dans ces différents espaces de réseau, ben, je vois que j'ai effectivement quoi ? Ici, j'ai un réseau qui s'appelle F5RG, dans lequel j'ai 6 machines qui sont connectées. Donc là, on voit qu'effectivement, j'avais créé un 10.0.0.4, 10.0.0.5, c'était les subnets default, là. Et puis, j'avais créé ici un autre subnet qui s'appelait backend. Et donc, là, on voyait que j'étais ici dans le 10.0.1 et que j'ai mis du coup d'autres machines, donc un contrôleur de domaine, un serveur SQL. J'ai le 10.0.1.4, 5, 6. Donc, on voit bien, effectivement, la première machine commence à 4.4. Donc, je suis comme ça à l'intérieur de mon environnement. Je vais pouvoir spécifier que je vais rajouter des subnets à l'intérieur de mon environnement. Donc, c'est relativement simple. Je vais faire add ici. Et puis, je vais pouvoir dire new subnet. Là, par défaut, il a incrémenté mon slash 24. Il est parti en 3. Donc, je fais OK. Je vais valider. Et puis, il va rajouter le subnet à l'intérieur de mon VNet.
Donc de base, le routage est implicite entre subnet au sein d'un même VNet. Après, on l'a vu ici, il y a quelques options qui permettent de rajouter des choses en termes de routage si on veut faire des choses particulières. Mais par définition, par défaut, à retenir, c'est que le routage est implicite.
Absolument. Donc ici, je vais voir que j'ai une machine qui est Arnaud DC. J'ai un objet Network Interface qui est lié à cette machine. Mm-hmm. Et à partir de là, je peux aller voir cette machine. Elle a une adresse IP privée, on l'a dit, qui est 10.0.1.4. Elle a aussi des adresses IP publiques qui lui ont été attribuées. On verra ça tout à l'heure dans la partie des machines. Donc voilà un peu à quoi ça correspond, cette création de réseau virtuel dans Azure. Ces adresses IP publiques dans Azure, on a la possibilité, c'est ce qu'on va faire par défaut, en fait, d'utiliser une adresse IP qui va être mappée sur un load balancer Azure. Et cette adresse IP, je vais pouvoir lui donner un nom qui va être associé par défaut à la région où j'ai attribué cette adresse IP. Donc j'ai quelque chose, point la région, point cloudapp.azure.com.
Exemple, mon service ou mon site web, point Europe, West Europe, cloudapp.azure.com. Bien que ce n'est pas un nom que vous allez forcément utiliser dans votre production, mais vous allez simplement après dans votre zone DNS qui vous appartient, genre macompagnie.com, créer simplement un alias qui dira www est un alias de mon site web.westus.cloudapp.azure.com.
Absolument. Donc on va avoir ces adresses IP-là qui vont être réservées du point de vue de l'espace public. À partir du moment où elles sont utilisées et associées à une application, associées à une machine virtuelle, eh bien, on considère que ça fait partie de la délivrance du service normal. Par contre, si vous avez une adresse IP qui est réservée, que vous avez réservée dans l'espace d'adressage, mais que vous n'avez pas utilisée et mappée sur un service, on va vous la facturer, puisque ça constitue une ressource qui, en fait, est réservée, bloquée pour vous, mais qui n'est pas utilisée. Donc, c'est un service additionnel qui, vu la pénurie d'espace d'adressage dans l'espace IPv6, se paye.
IPv4, pardon. Voilà. Donc, l'adresse IPv4 coûte cher, donc si vous voulez les réserver et garder toujours la même, mettez un service derrière, si vous ne mettez rien, c'est du gâchis.
Donc voilà à quoi ça correspond. Dans la configuration de l'adresse IP, on a bien effectivement la possibilité d'avoir une adresse IP qui soit utilisée de manière dynamique. Et là, j'ai le mappage avec un nom. Par exemple, j'ai pris pour cette adresse IP publique labf5.istus.cloudapp.azure.com. Donc là, voilà à quoi ça ressemble. J'ai aussi la possibilité d'avoir des adresses IP par instance de machines virtuelles. Donc ça, c'est aussi une option qu'on peut se dire. Quand je crée une machine virtuelle, je peux me dire, elle aura une adresse IP qui lui sera dédiée, ou alors elle aura une adresse IP qui passera par un load balancer dans lequel j'aurai plusieurs autres machines qui lui seront attribuées. Donc on a la possibilité ensuite de définir ce type d'adresse IP par instance.
Là, on est vraiment sur des scénarios typiques, genre le FTP, où il faut avoir un retour direct, qui n'aime pas trop le load balancer, ou des choses comme ça, en fait. C'est vraiment des applications qui ont besoin d'avoir, qui ont des contraintes assez fortes, entre guillemets, sur les paquets, les retours des paquets.
Exactement. Donc, si on va dans ma partie toujours de machines qui sont présentes dans mon environnement, je vais prendre mes ressources groupes et puis je vais revenir sur mon F5RG, que j'aime bien, parce que il me sert déjà à publier des ressources sur mon environnement. Donc, je vais filtrer ici. Hop. Je vais retourner, je vais prendre mon adresse IP pour mon load balancer. Et je vais voir que lui, il a en fait différents types de ressources qui lui sont attribuées. On voit que son adresse IP, elle a été attribuée sur cette information-là. Si je vais dans le panneau d'espace une adresse IP, donc là on voit que c'est une public IP adresse, on voit que ça c'est l'adresse IP qui a été attribuée, que le nom qui lui a été attaché c'est labf5istus.cloudapp.net, et si je veux voir dans les paramétrages ici, c'est là où j'ai la possibilité d'aller voir effectivement est-ce que c'est une adresse IP qui est attribuée de manière dynamique ou pas. Donc là je vois simplement ses propriétés, et puis je peux dire ici que effectivement cette adresse IP là, elle va être soit dynamique, soit statique. Alors ça veut dire assez simplement que si je choisis statique, mais je déprovisionne ma VM, la BF5 que je suis en train d'utiliser là, l'adresse IP va être conservée, va être réservée pour moi. Donc je vais facturer quand même, quoi qu'il arrive. Par contre, c'est les dynamiques. Quand j'éteins ma machine virtuelle là, l'adresse IP n'est pas utilisée, elle peut être réattribuée à quelqu'un d'autre. Donc on ne la facture pas évidemment pendant ce temps-là. Après, ça va vous déterminer est-ce que vous voulez squatter l'adresse IP, est-ce que par exemple elle est utilisée en dur par des applications. On sait que même en 2016, hein, il y a encore des applications qui peuvent targeter directement une adresse IP, pour des mauvaises raisons, mais c'est la réalité. Donc on a cette possibilité quand même d'utiliser cette option statique pour les adresses IP. Voilà à quoi ça ressemble cette notion d'adresse IP publique réservée pour des machines au sein d'Azure.
Je te propose de basculer dans une autre partie, et là on va se lier finalement à ce qu'on vient de raconter. On va parler un peu de load balancing. Tu as commencé un petit peu à introduire la notion de load balancing juste au préalable. Donc on peut faire du load balancing directement depuis Internet avec Azure. C'est nativement fourni entre guillemets dans l'ensemble des briques de services qu'on propose. C'est un load balancing aujourd'hui qui est un balancing relativement basique, niveau 3 ou 4. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les adresses IP ou sur les numéros de port, hein, mais c'est très très basique, mais ça répond déjà à pas mal de besoins, et on verra après comment on peut étendre si on veut monter au niveau applicatif. Et l'idée, c'est de répartir la charge en fait vers plusieurs machines virtuelles qui sont dans un VNet. D'accord, load balancer devant reçoit les requêtes et va envoyer à différentes machines virtuelles qui sont dans un même VNet. Donc plusieurs sites web, en général c'est plusieurs sites web, mais ça peut être plusieurs applicatifs au sens large. On peut également faire du load balancing à destination de machines en interne. Dans ce cas-là, en fait, on utilisera un groupe de machines qui, elle, sera du back-end, du coup. Et pour gérer ce load balancing au niveau 3-4, en fait, on va avoir un système de probing, tout simplement, qui va vérifier que l'application est disponible. Donc, en gros, si on expose, je sais pas, le port 80, eh bien, le load balancer va faire un probing sur les ports 80 des différentes machines derrière dans le VNet. Et puis, celles qui ne répondent pas, il ne leur enverra pas de paquet. Jusqu'à là, rien de vraiment très, très novateur, mais au moins, ça fait le travail. À noter, c'est qu'au niveau du load balancing d'Azure, on sait également faire de la redirection de port. Arriver en entrée, par exemple, sur un port 80, et faire le load balancing derrière sur le port 9000, par exemple, qui sont sur les services. Donc, on a à la fois un NAT, on peut dire, et un PAT, vu qu'on va faire du port translash.
À noter, point additionnel, c'est que quand on fait ça, par défaut, on est sur du load balancing de type round robin, c'est-à-dire première requête va sur le premier serveur, deuxième requête, deuxième serveur, et toutes les machines ça qui font partie du load balancing set et qui répondent positivement aux probes vont faire partie du load balancing set et vont avoir une répartition théoriquement égale et équitable à l'infini sur l'ensemble des machines qui font partie du load balancing set.
Mais là, on l'a dit tout à l'heure, on est vraiment sur un load balancing bas niveau, c'est-à-dire 3-4, où il y a zéro intelligence, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a envoyé un client sur un serveur qu'il va consommer les mêmes capacités qu'un deuxième client sur un deuxième serveur. Donc c'est pas entre guillemets une répartition intelligente applicative. Ça, il y a d'autres produits qui le font, on en discutera plus tard.
Exactement. Alors, je vais prendre un environnement de load balancing set qui m'a déjà été créé par Azure. Donc, je vais utiliser ici un environnement qui est tout simplement un environnement de cœur, hein, où je vais avoir en fait mes différentes machines qui vont être réparties derrière un load balancer. Donc, on a ici un élément load balancer. À noter, je ne vous montre pas la création d'éléments load balancer dans l'interface graphique puisque ça n'existe pas. Ça se fait soit en PowerShell, soit en utilisant du format JSON et en utilisant ça défini dans un template. Donc là ici on voit que ce load balancer en fait il est mappé sur une adresse IP. Les différents éléments qui sont constitutifs de ce load balancing c'est quoi? Ça va être un pool de back-end, donc des serveurs qui vont être des machines virtuelles à l'intérieur d'un groupe de machines.
Et qui font normalement la même chose et qui sont les mêmes. C'est une ferme de serveurs.
C'est la ferme de serveurs web, ici, dans mon cas. Le probe que j'ai défini, c'est tout simplement vérifier que les machines répondent sur le port 80. Donc là, ici, globalement, je fais un SYN, hack sur le port 80. Ça répond, OK, tu fais partie du pool de load balancing et tu vas être inclus dans les machines qui font du round robin. Et là, on voit les protocoles qui sont inclus pour le load balancing.
En fait, pour le probing, là, il y en a trois, mais ils ne sont pas visuellement affichés. Mais si on lit au-dessus, on comprend qu'il y a un probing pour le port 443, un pour le 80 et un pour le port 8080.
Et ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite, mon ami. On va aller dans les propriétés. Donc là, on voit globalement les informations sur l'objet. Ce n'est pas très intéressant. C'est juste pour voir où c'est stocké dans l'environnement. Je vais dans les probes, ce qui m'intéresse. Ici, on voit qu'effectivement, on fait un probe sur 80, 443 ou 80, les différents ports qui sont utilisés par mon environnement. On voit qu'on a la possibilité d'aller explorer ici ce qu'il y a dans le probe. Donc si on regarde, on fait un probe TCP, on aurait pu aller dans 80, dans un peu plus loin, dans HTTP. Donc là, on fait un HTTP GET. Et si on a une réponse qui n'est pas une réponse de type erreur au niveau HTTP, eh bien, on inclut la machine dans l'environnement. Donc là, c'est testé sur le port 80, un intervalle de 5 et au bout de 2 requêtes qui ont été pas
successful, réussies.
Voilà, qui n'ont pas été réussies, eh bien on va en fait discréditer la machine, elle n'appartiendra plus au load balancing set.
On finirait par se croire à se prendre pour Jean-Claude Van Damme.
Ouais, c'est un petit peu le danger. Donc on a ensuite les load balancing rules, où là on voit qu'effectivement, on a les différents éléments qui commencent à venir ensemble, puisque je prends ici le port 80 depuis l'extérieur et je vais vérifier que les machines qui sont dans le load balancing set sont dans le backend pool qui sont ici et je vérifie ça par le HTTP probe. Donc finalement, si je veux publier une ressource qui est à l'intérieur de mon VNet sur le port 80, ici je l'ai publié à l'extérieur toujours sur le port 80. Pour l'ensemble des machines qui appartiennent à ce back-end pool, si j'étends ici cet environnement, on va voir que c'est 5 VM en fait qui sont à l'intérieur du back-end pool. Je fais un probe sur le TCP 80. Je ne gère pas ici de persistance de session, donc je vais load balancer de manière très très simple sans avoir d'attachement d'une session particulière cliente à un host particulier.
Donc là, effectivement, c'est des options qu'on va choisir en fonction du type d'application qu'on a derrière. Si effectivement c'est une application où il y a une session qui doit se faire de bout en bout, on ne va pas envoyer le premier formulaire sur le premier serveur et aller voir le deuxième formulaire sur le deuxième serveur, la deuxième requête. Enfin, ça risque de pas très bien fonctionner, quoi. Mais pour du contenu qui n'a pas besoin comme ça d'être persistant.
Relativement classique dans les options qu'on a ici. Donc ensuite, on a effectivement les informations d'adresse IP. Là, il me dit quelle est l'adresse IP publique que je suis en train d'utiliser. Donc là, on voit que c'est type public parce que le load balancing que je décris, ça peut être fait vis-à-vis d'adresse IPv4 publique, mais ça peut être aussi décrit vis-à-vis de load balancing privé. C'est-à-dire, je peux de la même manière créer une adresse IP à l'intérieur d'un VNet qui est uniquement dans Azure pour load balancer différents contenus qui sont eux-mêmes dans d'autres machines dans Azure ou même à l'extérieur si j'ai un réseau qui est par exemple relié à mon environnement en mode site à site. Donc là, je vais dans cette adresse IP et on voit qu'effectivement, c'est cette adresse IP publique-là, cet ensemble d'adresses IP publiques-là qui sont utilisées pour ce load balancing set. Donc on a comme ça la définition de mon load balancer dans Azure.
Alors sinon, c'est parfait, tu as commencé à introduire, je l'ai fait également, la partie load balancer interne. Je pense que tu as bien résumé. Ce qui est peut-être intéressant ici, c'est les scénarios. À quoi ça sert ?
Bon alors, haute disponibilité pour des applications métiers, SQL, Always On, là le truc il est relativement simple. Hein. On a des serveurs web par exemple en frontal, on va leur spécifier une adresse IP de back-end sur lequel ils vont aller discuter avec leur serveur SQL. Bah, là l'idée c'est qu'on va effectivement pouvoir positionner un ensemble de machines qui vont répondre à cet environnement, y compris on-premise, ce qu'on voit sur le slide ici, c'est-à-dire que bah, globalement l'application utilisera toujours la même adresse IP de destination, et puis après bah, c'est l'application, le serveur SQL qui répond, qui sera en fait commis pour répondre à cette requête.
Comme tu l'as dit tout à l'heure, pour le load balancer qui était plutôt côté externe à ce moment-là, le load balancer interne se configure en PowerShell. Les commandes sont assez claires, hein, new Azure internal load balancer config, et puis add Azure internal load balancer. Après, on vous laisse faire la recherche sur votre moteur de recherche préféré pour avoir la syntaxe exacte. En mettant deux points, site microsoft.com, derrière, vous aurez directement la page qui correspond le détail de la fonction. On a vu donc le load balancing, on a vu la notion de VNet qu'on peut découper en subnet. On a déjà commencé à parler un petit peu de routage et légèrement de filtrage. Ben là, on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail de tout ça.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de disposition dans Azure pour faire ces ACL, des ACL réseau, hein. C'est la première chose qu'on va vouloir faire un admin réseau quand on est dans un réseau, c'est de faire des ACL.
Bon, c'est le Network Security Group dans notre terminologie Azure. C'est ce qui va permettre, effectivement, entre différents subnets ou différents VNets, de faire du filtrage et de laisser passer ce qu'on a envie. Donc on peut, entre guillemets, recréer, je ne saurais pas le dire, mais des sortes de DMZ au sein d'Azure. Ces Network Security Group peuvent s'appliquer en fait à deux niveaux. Soit on va les appliquer sur un sous-réseau, donc un des subnets qui compose un VNet. Donc là, ça va s'appliquer à l'ensemble des machines ou des services qui seront à l'intérieur de ce VNet. Soit on peut l'appliquer carrément par machine virtuelle. C'est-à-dire que tu pourrais te dire, finalement, j'ai un subnet qui est à plat avec des frontaux web, et puis à côté, un serveur SQL, et on pourrait faire une Network Security Group qui limiterait en fait l'accès sur le serveur SQL. Je dis uniquement, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais non. TCP 1433, par exemple, pour la partie SQL. Donc, à noter par contre, c'est qu'on a un seul Network Security Group qui va s'appliquer par machine virtuelle ou par subnet. On ne va pas commencer à en créer plein. Donc, le Network Security Group contiendra un ensemble de règles, mais on n'en crée pas deux. Sinon, après, il y aurait des conflits, ce ne serait pas très pratique à suivre également. À l'intérieur d'un Network Security Group, on va mettre des règles. Règles ordonnées, comme dans un firewall classique, comme on peut le faire depuis la nuit des temps. Et la limite est de 200 règles par NSG, ce qui est largement supérieur à quelque chose de raisonnable. Mmh. Parce que si tu connais le vieil adage, hein, trop de règles tue la règle, hein, ou trop de sécurité tue la sécurité. Donc les limites sont assez hautes, elles sont à 200, mais normalement on ne devrait pas avoir besoin d'autant de règles. À noter, c'est qu'il existe des règles par défaut. Une règle par défaut, là encore, c'est tout à fait classique de tous ceux qui ont déjà fait des ACL, quels que soient les environnements. En gros, on bloque tout en entrée et on autorise tout en sortie. Donc ça, ce sont les règles standards qu'il y a. Les règles sont ordonnées, donc quand on va rajouter une règle de blocage, par exemple, elle sera dans l'ordre avant la dernière règle, qui est la règle « j'autorise tout » ou « je bloque tout ». Voilà. Petit exemple de NSG, donc là, qui ont été définis en interface ligne de commande. On peut également les définir au travers du portail maintenant d'Azure, c'est nouveau, avant c'était 100% en script. Donc on crée un nouveau groupe de sécurité, on lui donne un nom, on lui donne la localisation, où est-ce qu'elle est, dans quel data center. On lui donne un label, c'est simplement un nom pour mieux l'identifier par la suite quand on en aura plusieurs. Et ensuite, on va créer en fait des règles de sécurité, sachant qu'il existe toujours les deux règles de base, hein, je bloque tout en entrée et j'autorise tout en sortie, qu'on soit au niveau réseau VNet au niveau subnet ou au niveau VM. Et ensuite, on va simplement rajouter des nouvelles règles. Donc là, par exemple, ici, ça rajoute une règle qui s'appelle... donc c'est une règle de inbound et qui va bloquer, par exemple, ce qui vient de tout le monde à destination de tout le monde. La règle n'est pas forcément ici un très très bon exemple. C'est plus la règle de base, ça, à mon avis.
C'est effectivement la règle de base, hein, qui permet de tout bloquer en entrée, oui.
On aurait pu donc là dire, je rajoute... Enfin là, on l'a créé comme ça, de base, hein, en PowerShell. Ensuite, c'est très simple de rajouter des règles comme ça, simplement en rajoutant inbound ou outbound en fonction de outbound. Mmh. En fonction de la... Je sais que mon accent te perturbe toujours. En fonction, effectivement, de la direction où on souhaite autoriser ou filtrer la requête.
On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble, cette règle inbound pour publication d'applications qui sont à l'intérieur de mon réseau. Donc, on va regarder ici, on va retourner sur mon environnement de Mesos, et puis il me semble que je dois avoir des Network Security Group quelque part. Donc là, si on prend la partie agent, par exemple. Oui.
Donc c'est visualisé par un petit bouclier.
Voilà, Network Security Group. Là, je peux aller voir dans les paramètres, mais je vois déjà que cette règle de security, ici, elle matérialise trois règles inbound. Donc, si je vais regarder avec ça, je vois que ces trois règles inbound, elles sont associées à cinq interfaces réseau, qui sont les cinq VM qui font partie de mon environnement. Donc là, j'ai des règles inbound et outbound. Si je vais dans les inbound, je vais ici avoir ces règles avec ces différentes priorités, où effectivement, et j'ai la publication de TCP 80, 443 et 8080 depuis n'importe où vers n'importe où. Donc là, j'ai pas fait de restriction. J'aurais pu me dire que depuis tel subnet, par exemple, que depuis telle plage d'adresse IP. Mmh. Je vois mes règles en entrée. Là, on voit que par défaut, je peux en rajouter. Hein. Si je veux personnaliser un petit peu mon environnement, je peux venir ici spécifier que je vais faire new règle. Je définis la priorité pour pouvoir avoir l'ordonnancement qui soit approprié à mon environnement. Je peux dire soit si c'est un CIDR bloc, soit un tag. Donc un tag, ça veut dire par exemple toutes les adresses depuis l'Internet. C'est ce genre de choses que je vais pouvoir mentionner. Ou un regroupement de type de réseau.
Donc là, en fait, il sait aller chercher l'interface, il sait aller chercher les différents objets de type network que tu as déjà configurés dans ta fabrique.
Voilà. Après, je peux gérer un CIDR block. Donc là, effectivement, comme il mentionne dans l'exemple, hein, c'est du 10.0.0/24, notation classique, en mode CIDR. Je peux autoriser tout. Quel protocole je veux autoriser? Donc tous les protocoles, TCP ou UDP. Donc, vous voyez, on est dans des niveaux très, 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 très basiques. Hein, filtrage.
Niveau 4.
Voilà. Le port source autorisé en entrée. Et puis le port destination que je veux autoriser ici en entrée également.
Donc là, je veux dire, ça va choquer personne qui a manipulé des firewalls dans les 20 dernières années, IPv4, hein, que ce soit dans le monde Linux ou pas Linux, ou dans le monde Windows. On est sur du tout à fait basique ici.
Yes. Et puis, on peut se faire un petit plaisir ici. On voit que les règles, par défaut, elles sont cachées.
Ouais.
Parce qu'effectivement, on n'a pas forcément envie de les voir. Là, ce qu'il nous dit, c'est qu'effectivement, j'autorise le trafic VNet inbound. Donc, j'autorise tout ce qui vient depuis le virtual network vers ce virtual network en entrée complet. Et j'autorise le trafic du load balancer en inbound. Et puis, pour tout le reste, je deny tout ce qui est entrant depuis n'importe où.
Voilà.
Donc là, on avait vu hein, l'autorisation et puis en dernier, le blocage de tout ce qui n'est pas autorisé.
Rien vraiment de fondamentalement différent de ce qu'on fait depuis 15 ou 20 ans dans les data centers sous les firewalls.
Je vous ai montré les règles inbound. Hein. Vous doutez que ça se passe à peu près pareil pour les règles outbound. Sauf qu'en général, là, la règle par défaut outbound, c'est qu'on va autoriser le trafic en sortie, le trafic sur le VNet et le trafic en sortie.
Bien sûr.
Là, on a les différentes adresses et les différentes interfaces auxquelles vont s'appliquer ces règles. Donc là, on voit que j'étais la règle qui touchait mes machines, non mes agents. Donc là, j'ai toutes mes interfaces réseau qui concernent mes machines, de mes agents, mes hosts, de mes serveurs, en fait, de mon pool de serveurs web. Et puis là, des informations sur le subnet. Je n'ai pas associé d'informations dans ce subnet-là, mais je pourrais rajouter ici un attachement à un subnet particulier. Donc voilà à peu près à quoi ça correspond l'anatomie d'un Network Security Group.
À noter, petit point, tant que tu es dans l'interface ici, il y a une petite étiquette, un petit label qui est posé ici dans l'interface, ici. Depuis qu'on a ce nouveau portail d'administration, on a la possibilité de poser sur tous les éléments de toutes les briques entre guillemets qu'on crée dans Azure des petites étiquettes pour bien les nommer. Ça peut être intéressant quand on crée des Network Security Group pour un applicatif donné, métier ou autre, de venir poser la petite étiquette, ce qui permet après simplement, depuis l'interface tout en haut, de quand on recherche des ressources, et le Network Security Group est une ressource, quand on cherche une ressource pour un ensemble applicatif, rapidement d'arriver tout de suite sur les bonnes règles qui correspondent en fait à cet applicatif. Donc de taguer entre guillemets l'usage de ce Network Security Group.
Autre option qui est fondamentale lorsqu'on va commencer à faire du filtrage et à rajouter de l'intelligence dans nos règles de réseau, c'est qu'on va, et c'est maintenant nouveau, pouvoir définir du routage particulier pour une infrastructure. On l'a vu, par défaut, Azure va faire le routage pour vous, mais on a besoin parfois de modifier la table de routage sur un réseau pour faire des opérations bien particulières. Alors ce type d'opération bien particulière, pour être plus spécifique, hein, c'est globalement quand je vais mettre une VM, par exemple, qui va faire du processing du trafic réseau en entrée, je peux peut-être, dans un certain nombre de cas, vouloir spécifier que pour le retour du trafic réseau, je vais repasser obligatoirement par cette appliance.
C'est mieux, en général c'est mieux.
C'est mieux, c'est pas forcément le cas par défaut. On peut faire du routage avec du l'adresse IP qui va être forgée au niveau du serveur émetteur. C'est ce qu'on fait quand on n'utilise pas du direct, enfin quand on utilise du direct server return, mais je vais pouvoir quand même définir ça, faire du user defined routing pour spécifier un retour particulier pour mon application. Donc c'est ce qu'on appelle UDR. Pour faire UDR, on a besoin de utiliser de la manière soit du PowerShell, soit du template au format JSON pour éditer les paramètres de mon environnement. Les opérations qu'on peut faire avec ça sont relativement restreintes. Hein. On peut juste modifier le next hop router dans une topologie de routage. C'est très, 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 très simple et basique. Ça va nous permettre de faire ces opérations-là que j'ai mentionnées pour du routage particulier, pour des appliances réseau, ou ça va aussi nous servir pour faire du force tunneling à l'intérieur d'un VNet. Force tunneling, j'entends quoi par là? J'entends, voilà, j'ai fait une interco entre mon réseau dans Azure et puis mon réseau de data center, et j'ai pas envie que le réseau défini dans Azure puisse sortir directement sur Internet. Donc je vais faire du force tunneling pour faire que le réseau virtuel dans Azure sorte toujours par mon réseau corporate. Il n'a pas la possibilité de repasser par Internet.
Effectivement, c'est bien mentionné que par défaut, quand on crée une machine virtuelle dans Azure, elle sort direct sur Internet par les règles de routage d'Azure en fait. Et si on a une interconnexion, ça ne change rien, elle passe quand même en direct par là.
Donc voilà à quoi ça correspond en matière de ligne de commande, New Azure Route Table ou Route Table selon votre accent anglais, américain ou anglais.
C'est ce qui te dit mon accent.
Selon le vrai anglais ou selon l'accent américain, eh bien on aura Route Table ou Route Table. Je l'ai parce que j'ai déjà eu la remarque de la part d'anglophones dans des sessions que je faisais. On me disait qu'il ne fallait pas dire route, mais qu'il fallait dire route. Et vice versa.
Et si tu es au Québec, ce sera un aiguilleur.
Oui, absolument. Donc on a ces différentes commandes ici, créer une nouvelle table de routage, ensuite on prend l'objet de table de routage et on spécifie l'information du routage, donc si on spécifie que pour telle route, là, next hope, c'est une virtual appliance, et puis c'est renvoyé vers la virtual appliance qui est sur l'adresse IP 10.0.0.4. Voilà à peu près l'anatomie d'une règle d'UDR, de User Defined Routing.
Alors, si je récapitule où on en est, on a vu les VNet qu'on a divisé en subnet, on a vu les load balancers, internes et externes, on a vu les règles de sécurité, les Network Security Group, on a vu le routage qu'on pouvait forcer d'un côté ou de l'autre. Bah, là, on va peut-être parler réellement d'interconnexion maintenant, c'est-à-dire qu'on a des choses qui vont tourner dans Azure, dans des VNet, connectées avec des subdivisées en subnet, on a des choses sur le data center côté de l'organisation, comment on interconnecte les deux? Alors, donc, nous avons donc Azure ici. Première option pour se connecter en fait à un réseau virtuel Azure, eh ben, directement passer par justement ce fameux load balancer externe dont on a parlé. Donc là, on va en général s'y connecter pour les services applicatifs ou les services exposés par la VM. Connexion RDP, par exemple, c'est un exemple de service applicatif. Donc on va passer par le load balancer, et puis donc qui derrière sera derrière un nom qui peut être du cloudapp.net, qui peut être du monservice.region.cloudapp.azure.com. On peut également faire du point site, du VPN point site, donc c'est-à-dire qu'on va installer un client nomade de type VPN ou le configurer s'il existe déjà dans la machine, sur le poste client, et on va se connecter en fait et être virtuellement présent avec une adresse IP au sein de VNet dans Azure pour voir les ressources dans Azure, plutôt une option qui est pour les administrateurs, ou une option qui sera utilisée dans le cadre, par exemple, d'un PRA, dans le cadre où le site primaire n'est plus disponible et on utilise les machines dans Azure à la place. On va utiliser pour cela, en fait, un protocole qui est le SSTP, Secure Socket Tuning Protocol, qui est un protocole de VPN SSL qu'on a implémenté à partir de Vista Service Pack 1. Donc là, on a un packaging tout fait. Dernière option, c'est vraiment l'interco au sens pur, c'est-à-dire comment on interconnecte un data center d'entreprise ou d'organisation avec Azure. Donc là, deux options vont s'ouvrir à nous. La première, c'est de faire un classique, entre guillemets, VPN site à site, basé sur des technos tout à fait traditionnels qu'on va décrire juste après. Autre option, c'est quelque chose de plus rapide, avec plus de qualité, plus de débit, et forcément un coût supérieur et un petit peu plus de complexité probablement, qui s'appelle ExpressRoute. Ça, on va le détailler juste après. Donc, la connectivité réseau vers Azure en point-to-site, donc je l'ai déjà introduit dans le slide précédent. On est vraiment raccordé sur un réseau virtuel d'Azure et c'est une connexion qui est plutôt ponctuelle des postes clients, comme tout VPN en général d'ailleurs. Donc en fait dans Azure, Azure va proposer la création automatique d'un package d'installation et de configuration d'une connexion VPN. Il faudra avoir un client donc compatible Windows, VPN Windows aujourd'hui. Par la suite, on devrait probablement avoir un kit de connexion pour Apple également. Donc ça fonctionne avec un certificat racine, un certificat client sur les postes. Et puis au maximum à retenir, c'est qu'on a 254 connexions possibles dans ce VNet en fait, d'accueil qui est l'accueil VPN nomade. Plutôt pour un usage administratif ou un usage ponctuel, clairement. Le site-to-site VPN, là encore, on est sur des protocoles relativement classiques d'interconnexion inter-site. Donc on est sur de l'IPsec. On chiffre en AES 256. On utilise une clé partagée aujourd'hui. C'est prévu par la suite qu'on puisse faire l'authentification mutuelle par certificat. La montée en charge est possible dans le sens où on va pouvoir choisir du côté Azure la taille des passerelles VPN et le débit, la bande passante maximum qu'elles sont capables de délivrer. La tolérance de panne est assurée côté Azure, parce que le VPN, la passerelle VPN virtualisée est en fait une VPN active-passive avec la capacité de redémarrer en cas de perte du premier nœud. Le contrôle granulaire des communications, il va se faire plutôt du côté en fait de la passerelle VPN de l'entreprise sur l'équipement filtrant de l'entreprise. Et puis on va pouvoir utiliser soit du routage statique, soit du dynamique en fonction des passerelles qu'on va utiliser. À noter, on est ici sur un environnement de type routé, c'est-à-dire qu'entre votre data center et les VNet qui sont dans Azure, on ne devra pas avoir d'overlap en termes d'adressage IPv4, parce qu'un routeur, ça reste quelque chose de relativement idiot qui, quand il reçoit un paquet et qu'il a la même adresse, les mêmes subnets des deux côtés, ben, il ne sait pas faire un choix.
Alors, quelques éléments pour la configuration de ces différents types de VPN. On est dans tous les cas pour une liaison site à site, qu'on soit en routage statique ou dynamique, par une clé partagée. On voit qu'on utilise uniquement des certificats pour la méthode .asit. En matière de protocole d'échange de clés pour la négociation IPsec, on est sur de l'IKEV1 ou de l'IKEV2 pour tout ce qui est routage dynamique. IKEV2 permettant théoriquement moins de consommation CPU à l'établissement du handshake et puis après à la réétablissement des connexions, c'est un petit peu plus rapide. En matière d'algo, on est sur différentes choses entre triple DES et AES, soit 128, soit 256. Et puis pour après la signature et l'intégrité, on est dans différentes choses autour de SHA-1. Et deux dans différentes variantes, soit 256, soit 384. En matière d'encapsulation, dans tous les cas, pour le site à site, on est dans de l'ESP, directement hébergé sur de l'IP. Et puis, on est dans SSTP, on l'a dit, pour du TCP 443, pour la partie point à site. Alors, les limites par défaut, on a une connexion site à site dans le mode routage statique classique. On est jusqu'à 10 pour une connexion site à site dans le mode dynamique. On sait aller largement au-delà selon les besoins d'une plateforme, mais c'est par défaut les limites qui ont été posées. Et puis environ 250 pour la connexion point à site.
On a une marge de 6 depuis tout à l'heure.
La fluctuation est liée au dollar, effectivement. Non, mais on voit qu'avec les 4 adresses qui sont réservées dans tous les subnets, on est autour de 251. J'ai bien l'impression, j'ai envie de te dire. Voilà à quoi ressemble le tableau de bord des connexions site à site. On voit les données entrantes, les données sortantes et l'adresse IP de la passerelle qui est du moins celui du point de vue Azure. Et puis, on a bien donc effectivement la vue entre les différents data centers qui sont prévus. Donc là, ici dans mon environnement, on voit data center Élysée et puis data center Cloud Dublin, pardon. On voit que le lien est établi et puis que j'ai bien établi une liaison avec le VPN qui est présent par ici. Okay. C'est la présentation dans l'ancien portail, la présentation dans le nouveau portail étant encore en cours de finalisation. Donc là, les clients nous ont dit c'est très bien, on a des passerelles où on sait faire de l'IPsec de site à site. On sait monter jusqu'à plusieurs centaines de mégabits par seconde, 200 mégabits par seconde selon les performances dans l'IPsec. Ce qui peut répondre à un certain nombre de scénarios, mais...
Mais pas à tous.
Pas à tous, parce que en général, il n'y a pas d'engagement de niveau de service pour l'accès à l'Internet.
Et puis, les passerelles, les VPN site à site ont leurs limites en termes de bande passante. Des fois, on a besoin de plus. Récemment, je discutais avec notre ami Pierre, que tu connais bien. Il me disait, en fait, un de ses clients faisait de la réplication de machines virtuelles depuis son data center à destination d'Azure. Une solution qui s'appelle Azure Site Recovery. Et ils étaient sur une cible future d'environ 200 machines virtuelles. Donc imagine que 200 machines virtuelles à répliquer, ça prend quand même cette nouvelle volumétrie. Et donc typiquement, l'option qu'ils avaient de VPN n'était pas l'option qu'il fallait pour cette volumétrie-là.
Eh bien, pour ça, on peut donc vous proposer de utiliser Azure comme site additionnel de votre infrastructure réseau. Donc c'est utiliser une technologie qui s'appelle ExpressRoute et qui va permettre effectivement de venir, selon différentes techniques, rajouter bien Azure comme site additionnel de votre WAN en fait. Donc ça veut dire qu'on a de la part de votre fournisseur de service réseau un engagement sur la bande passante, un engagement sur la disponibilité, un engagement sur la latence qui va être garanti pour la liaison. Deux modes de connexion. Au début d'ExpressRoute, effectivement, on était sur un mode où soit on va utiliser le mode MPLS, ou c'est on va dire le mode le plus simple, hein, parce qu'on vient simplement demander à mon fournisseur de MPLS classique, qui me permet de faire déjà l'interco entre les différents sites, d'ajouter Azure comme site supplémentaire MPLS. où on a un autre mode dans lequel on est le mode IX, le mode point d'échange. Donc on vient se connecter à une salle d'échange de l'infrastructure de l'Internet et puis on va échanger de l'information. On est dans des débits qui sont un petit peu plus gros par défaut dans la topologie de type point d'échange où on s'allait jusqu'à 10 gigabits par seconde. Dans la méthode fournisseur d'accès, initialement, on ne savait pas aller jusqu'à 1 gigabit par seconde. On sait maintenant aller un petit peu au-delà de cette bande passante. À noter que quand on va définir ce type de topologie, quand on va mettre Express Route en œuvre, on aura la possibilité de faire une liaison entre les réseaux du client, le data center et puis les réseaux virtuels d'Azure, les VNet d'Azure. On a aussi la possibilité d'avoir un lien vers les adresses IP publiques d'Azure pour accéder aux différents services. Et puis on a aussi un lien additionnel qui va s'ajouter, un channel particulier qui va s'ajouter pour aller discuter également avec les services Office 365. Et ce qui est plutôt cool, ça veut dire que du coup, quand je vais utiliser ExpressRoute, je vais demander en fait à mon fournisseur d'ExpressRoute de me garantir effectivement, en plus de mes VNet, une haute dispo vers mes services comme Office, comme Skype for Business, Exchange, SharePoint et ces choses que je peux avoir en ligne aussi. Donc, très très intéressant, c'est-à-dire que je ne passe plus par l'Internet, y compris pour accéder à mon Office 365.
Là, on est vraiment à 100% dans une vraie extension du data center, parce qu'on reste dans un quelque chose privé, sans passer par du public, et avec des performances qui sont relativement semblables à ce qu'on peut avoir sur un data center. Et donc du coup, les utilisateurs qui vont utiliser effectivement du SharePoint ou de l'Exchange ou d'autres fonctionnalités comme du Remote App par exemple, en fait, auront une expérience très très intéressante en termes de performance, parce que fondamentalement, en étant le data center avec une connectivité super rapide.
Voilà, exactement la même expérience qu'ils ont déjà pour leur liaison site à site dans leur réseau classique. On parlait des différents débits VPN ici. Je vous ai mis ici un petit récapitulatif des différentes passerelles qu'on a à disposition dans Azure. Donc on a des passerelles de type basic, standard et une passerelle de type haute performance. Et en fait, on voit qu'on a ici la possibilité, effectivement, et différentes capacités max de tunnel par défaut qui sont proposées. Donc on voit qu'avec la plus grosse passerelle, par exemple VPN IPsec, on sait aller jusqu'à 200 mégabits par seconde maximum pour la partie IPsec.
C'est un petit B alors, c'est pas un grand B.
Ouais. D'accord. Mais là, tout est en majuscule dans ce tableau en fait, c'est pour ça.
Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est des mégabits effectivement par seconde et non pas des mégaoctets secondes. Ouais. Vous en doutez bien, de toute façon, l'unité c'est le mégabit et non pas le mégaoctet dans le réseau.
Absolument. Tu as corrigé, tu as vu qu'effectivement, par toi-même, et tu as vu qu'effectivement, tout était en majuscule dans le tableau. Et puis effectivement, dans la partie performance, on va savoir aller jusqu'à du 2 gigabits par seconde dans la passerelle ExpressRoute en mode performance.
Ce qui est plutôt légèrement supérieur quand même à ce qu'on peut avoir maximum dans la partie VPN. Juste un rapport de 10.
Je crois, effectivement. Donc voilà les différentes options qu'on a à notre disposition. Elles ne sont pas toutes disponibles en interface graphique, donc pour certaines, on va plutôt utiliser en mode PowerShell.
On a vu tout à l'heure, on a parlé de load balancer et on a dit, et même des règles de filtrage, on a dit, bon, ça reste assez basique. Hein. On est sur le niveau 3, le niveau 4, au sens IP du terme. Et parfois, on a des besoins qui vont au-delà de ces simples réponses basiques, mm-hmm. qui correspondent à la majorité des gens, mais il y a plein de clients qui ont besoin de choses un peu plus évoluées. Et c'est là qu'interviennent les appliances virtuelles.
En matière d'appliances virtuelles dans Azure, alors je vous ai mis un petit slide télé-shopping pour introduire cette session. Où en gros, on va voir qu'effectivement, on a travaillé avec un certain nombre de personnes qui sont d'ores et déjà présentes sur le marché, des personnes que vous utilisez peut-être dans le monde de votre data center pour publier des applications, et vous avez envie d'en tirer parti dans Azure.
Petit point juste sur le slide Carrefour.
Il s'enrichit tous les jours.
Certes, il s'enrichit tous les jours. À savoir, c'est qu'au niveau de la facturation, il y a plusieurs approches. Là, ça va dépendre en fait de chacun des fournisseurs. Certains vont vous vendre le plan virtuel sous la forme d'une facturation additionnelle comptée au temps, d'accord ? La minute, et voilà. Donc là, on est vraiment sur tout ce que je consomme, je le paye, et inversement. D'autres vont être en mode, le plan virtuel n'est que quelque chose de préconfiguré sur lequel il faut venir mettre sa clé de licence. Et là, on est vraiment sur du bring on license. Je prends l'exemple de Barracuda, par exemple, c'en est un bon exemple, où ils proposent les deux formats, en fait. Kemp le fait également, je crois. Mm-hmm. vendre le format tout packagé avec le service qui est avec le inconditionnel pour le service qui intègre donc le coût de la licence, ou d'autres qui fournissent juste une coque entre guillemets prête à l'usage, comme on recevrait une nouvelle plane physique, et on vient mettre sa licence qu'on a déjà achetée au préalable. Donc voilà, c'est juste pour là, c'est ça.
Donc, parmi les types de planètes virtuelles qu'on va avoir, un des scénarios classiques, c'est le scénario d'ADC, d'Application Delivery Controller. Donc là, globalement, ça va être quoi? Ça va être d'ajouter l'intelligence qu'on peut connaître dans du F5, dans du KEM, dans du Citrix, pour aller publier mon application et faire, par exemple, l'inspection niveau 7 de ce qui est en train d'être publié. C'est-à-dire, effectivement, je ne me contente pas, comme le fait par défaut Azure, de rediriger vers le port 80, mais d'aller voir que dans le dialogue, c'est bien du verbe HTTP correct, qu'il n'y a pas en train d'essayer de trafiquer, de mettre du trafic bizarre dans le port 80, comme ça peut être parfois coutume. Et puis, ça va être aussi pour un certain nombre d'entre eux de rajouter leur intelligence particulière et leur fonctionnalité particulière. Par exemple, pour établir des scénarios type cloud bursting ou cloud failover. Par exemple, on peut imaginer des scénarios où on aura différents load balancers, un qui va être dans le data center, un autre qui va être dans le réseau virtuel d'Azure. Et puis, si le data center primaire passe de vie à trépas, eh bien c'est le load balancing dans Azure qui va prendre le relais. Ou alors si le load balancer de l'entreprise détecte que le trafic back-end ne passe plus vers les applications web, eh bien alors il va rediriger vers le trafic qui est dans Azure. De même, il y a des scénarios de type SSO qui sont permis par différents de ces éditeurs présents ici. Donc ça, c'est le premier scénario, l'ADC. L'autre scénario, c'est l'optimisation WAN, relativement classique aussi. On a peut-être des gens qui utilisent du Riverbed.
Voilà, donc on a des technos dans Windows, mais souvent, on a beaucoup vu de clients qui utilisaient ces accélérateurs WAN, hein, c'est le terme utilisé dans le marché. Donc un des plus connus, oui, c'est effectivement de Riverbed, donc le style de Riverbed. Et jusqu'ici, effectivement, ces équipements anti-réseau, ces équipements anti-réseau ne vendaient que des appliances physiques. Et sont passés désormais également à proposer des appliances virtuelles qui viennent en fait s'interconnecter avec les appliances physiques. Donc sur le site physique, dans le data center, dans l'organisation du Riverbed en version matérielle. Et puis quand il y a une extension du data center sur des clouds comme Azure, eh bien présence également d'une appliance cette fois-ci virtuelle et interconnexion des deux et donc gestion et optimisation du trafic entre les deux, tout simplement.
Et puis le dernier scénario, c'est le scénario de type pare-feu, IDS, IPS, intelligence additionnelle que je vais vouloir mettre sur ma passerelle. Voilà, par exemple, inspecter le trafic contre des signatures typiques de trafic, le job d'un IDS, IPS, dire oh là là, je vois un trafic réseau qui m'a l'air suspect, parce que c'est une payload classique, par exemple, de Metasploit ou d'autres outils de script qui disent, eh bien, on va pouvoir dire voilà, tu me dégages le trafic directement, donc ça va être le job. Et l'intelligence que vont savoir ajouter différents constructeurs qu'on a mentionnés ici sur le slide.
Donc là, on a presque un petit peu d'overlap des fois avec le Web Application Firewall, tel qu'on peut l'avoir dans du F5, par exemple, où il y a de l'analyse applicative également. Après, il y a une zone un petit peu où les deux se croisent sur la partie pare-feu. Je parlais sur la partie DDS, effectivement, là, on est bien séparés.
Voilà à quoi ça correspond, toutes ces petites choses-là. Je voulais juste vous montrer très rapidement à quoi ça correspond de créer une appliance virtuelle dans Azure. On va voir que c'est relativement simple. Petite démo avec un Big IP, on pourrait le faire évidemment avec plein d'autres. En fait, quand on va vouloir créer une machine, on a la possibilité dans la partie compute de voir certes les machines Windows qu'on a l'habitude de connaître. Mais on a aussi plein d'autres choses qui sont fournies. Donc là, on a un exemple rapide. Je peux faire call. Et je verrai que j'ai plein de choses qui sont relatives à la publication d'infrastructures.
On appelle ça le marketplace. En fait, c'est l'endroit où il y a toutes les images préconfigurées de systèmes ou de systèmes et applications ou appliances virtuelles. Donc là, c'est un moteur de recherche qui fonctionne très bien.
Hop, donc là, je tape F5, par exemple, puisque j'ai l'habitude de faire du F5 dans mon environnement. Je vais pouvoir prendre...
Je fais beaucoup de F5 dans mon navigateur aussi.
Voilà. Donc, on va pouvoir prendre du good, du better ou du best. Vous l'avez deviné, vous êtes ici dans MVA. On va y aller directement avec la meilleure.
Le best.
Donc, on va pouvoir faire create. Ici, on est en mode bring your own license. Et puis, on a ici les basics. Donc, il me demande en fait le... nom de ma VM, donc là ici je vais mettre nom F5, je vais pouvoir spécifier mon nom d'utilisateur, faire mon authentification soit par clé SSH, soit par mot de passe.
Oui, derrière en fait c'est du Linux repackagé, spécialisé Donc effectivement, on a les mêmes zones de saisie qu'on peut avoir lorsqu'on crée une VM Linux.
Donc là, je spécifie le nom de mon ressource groupe, l'environnement.
Mon mot de passe n'est pas complexe.
Mon mot de passe n'est pas assez complexe pour la machine. On fait l'étape d'après. On choisit ici la taille. Donc par défaut, il nous propose une asset, ce qui est relativement confortable hein, pour une petite appliance virtuelle.
Je pense que c'est recommandé dans ce cas-là. Ils ont cadré en fait que tel modèle correspondait à tel modèle de appliance virtuelle.
Absolument. On a ensuite les paramètres comme le stockage, le compte de stockage et les différentes options qu'on va mettre en place. À noter ici, pour le cas bien particulier du F5, hop, on va désactiver le monitoring.
D'accord, le monitoring donc, est à l'intérieur de l'application, à l'intérieur de la VM.
Ouais, et si tu l'actives, en fait, la VM ne va pas forcément bien réagir.
D'accord. Petit point de détail qui a son importance.
Voilà, qui peut être intéressant quand on va faire un déploiement. Donc là, je fais OK. Et puis globalement, bah, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut créer la VM, créer l'ensemble des règles qui y sont appliquées. On va pouvoir les consommer comme ça, l'interface classique qu'on a l'habitude d'avoir pour aller publier nos applications. Donc mon administrateur réseau, en fait, ne va pas être dépaysé. Il aura bien accès à sa console habituelle pour publier ses applications.
Tiens, au passage, on a notre service qui est relativement basique. Là, parce que là, on était vraiment dans de l'évoluer avec les appliances virtuelles, parce que c'est très spécialisé. Un petit peu plus générique, mais qui peut répondre à pas mal de petits besoins, c'est Azure Traffic Manager. Qu'est-ce que ça coûte, Arnaud ?
Azure Traffic Manager, comme son nom l'indique pas du tout, n'est pas une chose qui va gérer du trafic réellement, du moins pas très directement. Traffic Manager, en fait, c'est un service de DNS. Un service de DNS qui va permettre d'orienter des requêtes d'utilisateurs vers une plaque géographique particulière. Qu'est-ce qu'on entend par là ? On se dit c'est un peu comme du DNS qui serait géolocalisé et de dire voilà, je vois telle adresse IP de ma machine cliente, eh bien je vais la rediriger vers la plaque européenne parce que d'après l'adresse IP, je vois que ce client vient de l'Europe.
Donc là, c'est-à-dire que c'est dans le premier mode de répartition d'aiguillage qui est le mode performance.
Voilà.
Mais on a les modes classique ou historique.
Voilà, on a le mode round robin et le mode failover.
Le mode tourniquet.
Voilà, qui vont permettre de prendre, comme on l'expliquait dans le load balancing auparavant, tout à l'heure, ben, première machine va sur le premier hôte, deuxième machine sur le deuxième hôte, etc., etc. Et donc, en fait, globalement, on fait ça pour gérer la hot dispo du point de vue DNS d'ores et déjà.
Donc, le mode failover aussi qui permet de tomber au cas où.
De tomber sur le nom, sur différentes hôtes. Au cas où le premier ne marchait pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand on va utiliser ce service, ben, on va prendre globalement un nom pour mon application qui s'appelle contoso.trafficmanager.net. Ce contoso.trafficmanager.net va publier des enregistrements DNS qui peuvent publier des choses derrière un cloud service, enfin derrière une ressource à l'intérieur d'Azure, en mode IaaS, quelque chose derrière en mode PaaS, ou alors quelque chose qui ne fait pas partie d'Azure, une adresse IP de l'Internet, par exemple, relativement classique. Donc ça passera toujours par une adresse qui est quelque chose quelque chose pour un traffic manager.net. Vous en doutez bien, on va rediriger nos utilisateurs en fait avec un nom classique de l'internet. Donc par exemple, je vais faire www.monsiteinternet.com. Je lui mets un CNM pour en fait contoso.trafficmanager.net et ensuite je vais avoir le traffic manager qui va faire son job de renvoyer les enregistrements DNS corrects selon le mode qu'on a configuré, donc soit round robin, performance ou failover.
Bah écoute, c'est très clair.
On parle de DNS, autre chose qui est présent dans Azure, eh bien c'est simplement Azure DNS. Azure DNS, c'est un service qui est relativement simple. En fait, là, c'est la possibilité d'héberger des zones DNS à l'intérieur d'Azure. Donc, globalement, on achète déjà ces zones DNS, par exemple chez GoDaddy ou plein d'autres qui sont présents sur le marché. Et puis, on va éditer la zone DNS sur leur environnement. Donc, on va dans leur console web, rentrer des informations sur l'adresse IP de mes serveurs, etc. Alors, on connaît le truc, hein, faut relocaliser le mot de passe pour aller sur leur site, mettre à jour le record. Il y a du cache de tous les côtés, donc ça peut parfois mettre plusieurs heures pour rafraîchir le record sur l'ensemble de la topologie. En fait, ce qu'on va chercher à faire avec Azure DNS, simplement éviter ça. Éviter ça comment ? Ben, en fait, parce que c'est des choses que je vais pouvoir intégrer dans mon scripting Azure, la mise à jour de mes records, et puis parce que je vais avoir une mise en cache qui va être plus agressive, enfin, plus précisément une non-mise en cache, qui va faire que je vais être plus agressif dans la mise à jour de mes records.
Alors, enfin, on est qu'au début, je pense, du service. Hein. Pour l'instant, c'est quand même assez brut de fonderie. Mm-hmm. On n'a pas d'interface.
Alors, effectivement, il n'y a pas d'interface graphique pour l'administrer.
On se plaignait de l'interface que tu peux avoir chez un fournisseur qui te vend un nom de mm-hmm. domaine et qui te fait le DNS. Là, du coup, les gens ne peuvent pas se plaindre chez nous, vu qu'il y a...
Vu qu'il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Donc, Mais évidemment, hein, c'est présent par contre en PowerShell.
Bien sûr.
Donc la majorité de déploiements cloud, de toute façon, se font en mode ligne de commande. Donc là, là l'idée, elle est claire. Hein. On va intégrer tout ça clairement dans notre mécanisme classique. Pareil, à l'heure actuelle, au moment où on parle, il n'y a pas de service d'achat de nom. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais je pense qu'on pourrait assez facilement imaginer dans un avenir proche qu'il pourrait y avoir aussi également la possibilité d'acheter le nom directement depuis Azure et puis de gérer, l'espace de nom aussi depuis la console.
Tant qu'on n'a pas acheté les noms pour PowerShell, ça devrait aller. Et effectivement, on est au début du service et on sait que par définition, nos services, en fait, ils évoluent par rapport à ce que les clients nous demandent. Donc il y a des grandes chances effectivement que tout ça arrive. Et c'est uniquement utilisable en mode Azure Resource Manager, c'est-à-dire le nouveau mode qui est disponible officiellement en production depuis le mois de septembre 2015, donc c'est relativement récent également.
Mais voilà Stanislas, ce qu'on pouvait dire pour résumer l'ensemble des services réseau présents au sein de la plateforme Azure.
Effectivement, donc pour résumer, hein, des VNet, des Subnet, des Load Balancers internes ou externes, un service de DNS, un Traffic Manager, des appliances virtuelles, de quoi faire déjà pas mal. Du VPN site-à-site et de l'Express Route. Je pense que toutes ces briques combinées devraient permettre de répondre à peu près à tous vos besoins actuels. Et après, il ne reste plus qu'à aller un petit peu plus loin dans chacun des briques. Et puis, on va continuer notre exploration des services de IaaS avec le prochain module de ce cours. Au revoir.